L'âge bête sur RCN.
Bonjour, bienvenue sur RCN dans l'âge bête. Bonjour l'équipe.
Salut.
Allez, deuxième émission aujourd'hui. On va parler encore de plein de choses. Pour la chronique histoire, on parle de quoi aujourd'hui, Clément?
On parle d'une pierre importante de l'histoire égyptienne.
Ne nous en dis pas plus, on en parle dans un instant. Duel de génération, Ottilie.
Aujourd'hui, c'est les transports.
Plein de choses à dire, évidemment. Après une pause musicale, on parle écologie avec toi,
Clovis. Eh bien, moi, c'est également les transports avec les voitures électriques.
Et voilà, on restera dans le thème. Et puis après, voilà, il sera le temps de se culturer un petit peu. Lucie, donc un nouveau quiz encore aujourd'hui et cette semaine. L'artiste de la semaine, Naïm, c'est...
Cyber, mais on va dire sabre parce que j'ai la flemme.
Allez, on aura une énigme de maths aussi avec toi. C'est
voilà, comment on va réfléchir encore. Bon. Alors activer les neurones.
Allez, et on fera un petit tour de l'actu et avec une citation de Clément et pour conclure
Alan,
cette émission.
Tu fais SP maths?
Oui, je fais SP maths.
Pour quelle
C'était
raison
juste une question comme ça.
Ah, okay. Comme ça.
Allez, soyez bienvenue sur RCN. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Alors, je crois que Clément, tu as une petite question pour nous.
Oui, et la question de la semaine, c'est quel est le saucisson à sa pierre? Donc, c'est une pierre importante de l'histoire mondiale. Hein,
quel saucisson
et de l'histoire
à sa pierre
égyptienne.
La rosette, oui.
Bah, le fuseau Laurent.
Voilà.
Le fuseau Laurent.
La pierre de rosette.
À la même. La pierre de rosette. Donc, c'est une stèle en granodiorite. C'est une roche plutonique qui provient des massifs montagneux. Et donc, cette pierre de rosette, elle date de l'Égypte antique, donc vers 106 après Jésus-Christ, sous le pharaon Ptolémée III. Donc, il y a trois fois le même texte sur cette pierre, une fois en grec ancien en bas, en égyptien démotique au milieu et en égyptien hiéroglyphique en haut. C'est un décret royal du pharaon Ptolémée III, donc il y a environ 1900 ans, faut se rendre compte quand même. Cette pierre, elle pèse 760 kg pour 1,12 m de hauteur, 75 cm de largeur et 28 cm d'épaisseur. Les hiéroglyphes ne furent plus maîtrisés depuis la chute de l'Empire romain et ne furent plus utilisés même depuis 396 après Jésus-Christ, selon les égyptologues. La dernière trace est à Philae sur les colonnes d'un temple. Et la pierre a disparu entre cette date jusqu'à être retrouvée le 19 juillet 1799 pendant la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Elle servait de fortification pour la ville de Rosette, d'où son nom. Et en 1801, les Britanniques s'emparent de la pièce pour, en 1802, la ramener à Londres où elle est aujourd'hui encore conservée au British Museum. Elle va ensuite être copiée et moulée plusieurs fois pour la diffuser dans toute l'Europe. À noter que le grec est traduit dès 1803. Dans les années qui suivent, plusieurs théories pour former un alphabet hiéroglyphique vont être mises au point, mais aucune ne tient réellement la route.
Et du coup, je crois que tu peux nous expliquer comment fonctionnent à peu près les hiéroglyphes.
Oui, donc les hiéroglyphes, c'est une écriture sans voyelle inscrite. Seules les consonnes sont inscrites et chaque signe peut représenter le sens de la phrase, un son phonétique ou encore désigner un mot.
Et c'est assez vague, finalement, pour les hiéroglyphes, c'est assez compliqué.
Et c'est là où Champollion a été très fort. Champollion dira même, c'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais même presque un même mot. Champollion donc va voir un lien entre le démotique et les hiéroglyphes. Il va voir des similitudes, notamment. Il connaît déjà le copte, donc c'est une langue dérivée de l'égyptien ancien et du grec ancien. Et grâce à ses connaissances et à sa connaissance du copte, il va déchiffrer le nom de Ramsès et donc ses premiers hiéroglyphes. Puis il va continuer de hiéroglyphe en hiéroglyphe. Et en 1822, Jean-François Champollion écrit une lettre à Monsieur Dacier où il indique avoir compris et déchiffré les hiéroglyphes. À partir de ce moment, il est le seul à pouvoir déchiffrer et comprendre ces symboles. A noter que Champollion, au cours de sa vie, n'a pas vu une seule fois la pierre de Rosette. C'est une découverte majeure du patrimoine mondial et Champollion sera même nommé premier conservateur du musée égyptien de France, qui va donc après devenir le département égyptien du Louvre. Et après cette découverte, eh bien, il va voyager à travers l'Égypte afin de déchiffrer les traces du passé, et les égyptologues vont pouvoir comprendre l'histoire de l'Égypte antique. Une partie de ses écrits sont enregistrés à la bibliothèque de Grenoble, si vous voulez y aller. Et si vous voulez en apprendre encore davantage sur la manière dont Champollion a réussi à comprendre les hiéroglyphes, il existe un musée Champollion dans la ville de Vif en Isère. C'est l'ancienne maison de son frère. Le département égyptien du Louvre est très intéressant également à aller voir. Ça peut être bien d'y aller si vous avez le temps, si vous passez par Paris. Et vous n'y verrez pas la pierre de Rosette qui est encore conservée au British Museum à Londres.
Et en tout cas, on pourra aussi aller visiter la ville de Rosette, hein, aussi.
Ouais. C'est quand
même,
en Égypte.
Moi, je retiens ça quand même en Égypte, la ville de Rosette. Merci Clément de nous avoir parlé histoire pour débuter cette émission. Et on va continuer par parler de génération. Mais comment se déplace-t-on, Ottilie ?
Eh bien, pendant très longtemps, le moyen de locomotion le plus répandu, c'était la marche à pied ou évidemment l'utilisation de bétail. Par contre, les transports se sont modernisés et la voiture est celle qui a connu la plus grande expansion. D'après une étude de l'INSEE en 2017, qui porte sur 26,8 millions de Français actifs, plus de 74% utilisent la voiture. Cependant, les transports en commun connaissent de plus en plus de succès grâce à l'aménagement de ceux-ci dans les villes. Ce sont donc pour 2017, 16%, soit 3,9 millions des Français qui empruntent ces moyens de locomotion, de transport, et ce pourcentage ne cesse d'augmenter. 6% des actifs se déplacent à pied ou à vélo, donc ça reste assez faible.
C'est sûr que c'est pas très pratique, en plus quand il pleut, le vélo c'est... Alors le Grand Est a quand débloqué un important budget pour développer les transports en commun.
Effectivement, donc en 2022, le Grand Est a débloqué un budget de 1 milliard d'euros pour développer les transports en commun dans la région. Donc l'argent va servir pour augmenter l'offre ferroviaire, développer les zones portuaires, acheter des trains et pour améliorer en général le service aux usagers des transports. Donc, d'après une enquête de la New Car Buyer Survey, en 2015, la moyenne d'âge d'acheteurs de voitures neuves est de 55,3 ans en France. En 2022, c'est 57 ans.
C'est énorme.
C'est ça. L'achat d'une voiture donc neuve devient vraiment un luxe. Le marché de l'automobile d'occasion explose. Les modèles récents connaissent une augmentation de prix, ce qui pousse les acheteurs à choisir des modèles plus anciens. Le développement de ce marché est dû à la baisse du pouvoir d'achat et une conscience écologique. Selon un sondage concernant 2082 étudiants du site Minute Auto, 37% utilisent un véhicule motorisé, 22% les transports en commun, 19% le covoiturage, 16% la marche à pied et 6% le vélo. Les véhicules choisis ne sont donc pas forcément ceux qui sont respectueux de l'environnement.
Mais en tout cas, on remarque que du coup, les voitures, les assez polluantes aujourd'hui avec l'inflation et tout ça, bien, ça peut participer à une transition en quelque sorte écologique en se passant de la voiture du coup.
Ouais. Et vu que c'est de plus en plus cher aussi.
Ça devient compliqué. Et vous, vous déplacez comment ? Rapidement.
En voiture.
En char à voile.
Je crois qu'on va rester là-dessus. Merci Ottilie. Dans quelques instants, on parle écologie. Mais justement, avec toi, on reparle transport. Dans quelques instants sur RCN.
I love it when you do it like that.
Ensemble jusqu'à 14h30 sur RCN dans L'âge bête, une émission 100% jeune. Ça marche aussi. Dans un instant, on fait un quiz de culture générale avec toi, Lucie. Mais pour l'heure, on parle écologie avec toi, Clovis, et on parle voiture électrique.
Et oui, les voitures électriques, un type de véhicule qui fonctionne à l'électricité et à l'aide d'une batterie, vous le savez sans doute. L'Europe est numéro 1 des achats de véhicules électriques et numéro 2 des ventes. La Norvège est-elle un exemple avec ses 80% de véhicules électriques en circulation à l'intérieur de ses frontières ? La France, quant à elle, est tout de même au-dessus de la moyenne européenne avec 13% de véhicules électriques dans l'Hexagone. Le gouvernement a mis en place des bonus à l'achat pour inciter les Français à franchir le pas vers l'électrique. Est-ce un nouveau souffle pour Renault, excusez-moi. Tout le monde est content, mais est-ce vraiment si écologique que ça ? Est-il possible de traverser notre pays en entier sans faire de recharge ? Pour rappel, le tout électrique à la vente sera obligatoire à partir de 2035. Un test a été fait par Science et Avenir pour savoir s'il était possible de traverser la France en Tesla, le plus gros producteur mondial. Un trajet de 915 km avec une autonomie officielle de 400 km à une vitesse de 90-100 km/h. Voici le résultat. Sur autoroute, il s'agit en réalité d'une autonomie de 200-250 km. Oh. À une vitesse qui ne dépasse pas les 130 km/h, donc du coup, là, ça va. Hein. C'est très peu comparé aux voitures thermiques, qui peuvent atteindre les 1000 km d'un seul coup. Dans notre pays, il existe seulement 56 bornes spécifiques pour ce genre de véhicule. Très rapide, elle redonne 270 km en 30 minutes et une heure pour une charge complète. Mais chez le particulier, eh bien, la voiture avale seulement 14 km par heure. C'est très faible. Oui. Les batteries sont également pointées du doigt par plusieurs choses, la fiabilité, le bilan environnemental et humain. Elles sont fabriquées à l'étranger, en Chine. Des matériaux précieux, lourds, qui eux sont très polluants, sont obligatoires à la construction de ces batteries. Ces mêmes batteries ne sont pas renouvelables pour l'instant également. La cause humaine de ces ouvriers est alarmante. Des salaires déplorables, des conditions de travail compliquées, des enfants sont envoyés dans les mines également, sans parler du prix d'une charge de batterie qui va progressivement devenir plus cher qu'un plein d'essence. Alors essayez de prendre le train dès que vous le pouvez et quand ils sont à l'heure aussi. Le biocarburant, qui est une très bonne chose d'un point de vue environnemental et économique également.
Ouais, donc il y a d'autres alternatives. C'est vrai que les batteries posent un vrai problème parce que en soi, l'électrique, pourquoi pas ?
Ça dépend.
Mais bon, maintenant, il faut que ça marche et puis que l'impact environnemental et humain soit
Tout dépend des points de vue. Pour certains, c'est une totale aberration. Pour d'autres, c'est une aubaine. Mm. C'est un point de vue.
En tout cas, pour traverser la France, on n'ira pas en vacances avec une voiture électrique.
Ouais. RCN. L'âge bête.
Allez, culturons-nous, Lucie, un quiz de culture générale dans cette émission qui s'appelle L'âge bête. Ça veut tout dire, c'est à toi.
Eh bien, c'est parti avec un sujet assez lourd. Quelle fut la plus grande catastrophe nucléaire de l'humanité ?
Tchernobyl.
Ouais, Tchernobyl, survenu dans la nuit du 25 au 26 avril.
83.
1800. Non. 86.
89.
Ah, putain.
Ah, il fait mal, il l'avait pas.
Et c'est un accident nucléaire majeur de niveau 7. Voilà, ça a fait... Ça a remué un peu la planète.
T'es sûr que c'est pas 83 ?
Non, non, 86.
Bon, on peut changer dans les manuels d'histoire, non ?
Oui.
Allez, continuons. Qui a peint la jeune fille à la perle ?
Van Gogh ?
Van Gogh ?
Bon, je sais pas, moi je suis pas calé en peinture.
C'est Vermeer.
Ouais, moi, à part les Beaux-Arts de Nancy...
Non, c'est Vermeer, vers 1665. Il a aussi peint la laitière. Il y a d'ailleurs un film sorti en 2003 avec Scarlett Johansson sur le film de la jeune fille à la perle. Continuons ensuite avec quel est l'animal qui tue le plus d'hommes chaque année ?
Le moustique.
Eh bien oui, le moustique tue chaque année 725 000 personnes, ce qui est énorme. Ouais. Pour des si petites bêtes.
C'est pas le rhinocéros ?
Qui vient nous embêter la nuit, non. Non.
Moi j'en croise moi, des moustiques personnellement.
Et hier j'en ai vu un, je suis rentré chez moi, je fais salut.
T'es sûr que c'était pas au Tilly ?
Alors ensuite, qui est le sixième président de la 5ème République ?
Sarkozy.
Mmh, Sarkozy, du 16 mai 2007 au 15 mai 2012.
Ah, mais il est avantageux, lui.
Continuons ensuite avec quelle est la capitale des Pays-Bas ?
Amsterdam.
Amsterdam.
Ah, merde, là, c'est européen.
Très joli pays, d'ailleurs. Très pays.
Amsterdam, c'est très beau. Hein.
Amsterdam, oui.
Pays-Bas, Clément, pays hiver, du vélo, donc c'est pour toi, quand même.
Et il y a de la bonne nourriture
plus,
aussi.
En plus,
Continuons ensuite avec quelque chose qui me concerne un petit peu.
La STMG ?
Quel est le surnom donné à la première femme préhistorique ?
Lucie.
Bah oui, bien sûr. Oui. Lucie, de l'espèce Australopithèque, découverte en 1974 en Éthiopie. Ouais. Donc, ça fait un petit bout de chemin, hein ?
Puis surtout une sacrée dans le temps, hein, ça fait quand même
un petit retour dans le temps.
Ah, quelques années. Hein.
En parlant d'Éthiopie, continuons avec de la géographie. Quel est le plus haut sommet de montagne du monde ?
L'Everest.
Ouais, le mont Everest, découvert en 1847.
8800 mètres.
8849 mètres.
Ouais, 49 mètres près.
Attention, mais il faut les savoir. Les
D'ailleurs, il grandit toujours, je crois, ou ça dépend. Ou il ratissime, ça dépend avec les plaques tectoniques.
Je crois que tu confonds avec le Mont Blanc.
Non, non, les deux.
Non, il est en pleine puberté, là.
Il grandit. Continuons ensuite avec quel auteur a écrit Roméo et Juliette ?
Shakespeare.
Voilà, William Shakespeare vers 1597, pardon. Continuons avec de l'histoire. Comment s'appelle la femme de Barack Obama ?
Michelle Obama.
Michelle Obama, bien sûr. Et pour finir, toujours avec les États-Unis, combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau des États-Unis ?
50.
50 étoiles représentant
les 50 États
de l'Union. En effet, oui, exactement, c'est ça. Et ben voilà, j'en ai fini avec mes questions de culture générale.
Et ça a été plutôt pas mal. Hein. Il y a eu
quelques bêtises. Hein.
Oui, comme toujours.
Fait éclater. Hein. Alors, c'est Clément qui a gagné encore une fois avec 5 points. Il a gagné. Il a répondu à la moitié des questions.
Ouais.
Donc les autres.
Je crois qu'il va gagner jusqu'à la
fin de la saison.
Il va gagner jusqu'à la fin de la saison.
Je vais croiser les doigts.
Faut pas que tu t'absentes parce que sinon ça va vite être compliqué.
L'âge bête sur RCN.
Naïm, tu nous parles d'un artiste. Aujourd'hui, c'est l'artiste Sabre. Du coup, on dit comme ça.
C'est un jeune artiste anglais, très jeune même, puisqu'il a 14 ans.
14 ans ?
Et au moment où il a fait le morceau qu'on va écouter, il avait 12 ans.
Ah, waouh ! Oui. Wow.
C'est un morceau de
12 ans.
À 12
ans, je jouais aux poupées, moi.
Ouais, je faisais pas de la musique, moi, à 12 ans.
C'est de la musique électronique un peu plus classique, mais on va pas en parler plus que ça. On va plutôt parler de son parcours. Il a commencé sans trop savoir ce qu'il voulait faire, donc il faisait de la trap, de la house, de l'EDM, de la dubstep même.
Ok, c'est quoi ?
C'est beaucoup de genres musicaux assez bourrins pour la plupart, mais pas toujours. C'est assez agréable des fois. Et il s'est spécialisé l'année dernière dans la drill pour essayer de flotter sur le regain de popularité de la drill, mais ça n'a pas du tout pris. Donc il s'est lancé dans un concours de remix du jeu Minecraft qui est assez particulier. Mais ça a assez bien marché, il a gagné quelques milliers de vues sur chacune de ses vidéos, ce qui n'est pas énorme dans le terme de musique, mais ça lui a permis de se faire une communauté. Et depuis quelques mois, il s'est spécialisé dans un genre émergente qu'on va parler peut-être dans quelques semaines, qui s'appelle le funk. C'est assez particulier, mais c'est pas ce qu'on va écouter aujourd'hui.
On va l'écouter à funk.
Bravo.
C'est sûr, enfin permis de gagner légèrement en popularité, puisque ces tutoriels de funk ont atteint plusieurs dizaines de milliers de vues, et ces morceaux quelques milliers. On va écouter ça tout de suite, vous pouvez le retrouver aussi sur Discord, Spotify et YouTube.
Donc on s'écoute Last Day, c'est Sabre sur RCN, bienvenue. Toujours en direct sur RCN, décidément une demi-heure, ça passe beaucoup trop vite avec cette équipe bien motivée. Bon, allez, si on est motivé justement à pouvoir faire
Il va falloir être motivé, on va faire un petit peu de maths, vite fait une énigme, il va falloir chauffer les méninges. Allez, on y va direct, donc c'est une suite de nombres qui va se... Enfin, où il y a une logique que vous devez détecter pour deviner le nombre qui va arriver après. Donc je commence tout de suite. Alors le premier nombre, c'est 1. On va fonctionner en ligne. La première ligne, vous avez le nombre 1. Sur la deuxième, c'est 1, 1. Troisième ligne, 2, 1. Et quatrième ligne, 1, 2, 1, 1. Et vous me devez me donner la cinquième en suivant la même logique qui est cachée dans ces nombres. Donc je répète la suite. Ligne 1, 1, 1.
Ouais.
Ligne 2, 1, 1. Ligne 3, 2, 1. Ligne 4, 1, 2, 1, 1.
Et là, tu viens de créer 5 accidents sur l'autoroute.
C'est du binaire, Alan.
C'est par rapport.
Je vous conseille de l'écrire et de lire une ligne en regardant celle d'avant pour deviner ce qui se passe.
Bah, d'accord. Et ça fait 1, 2, 3, 1.
2, 1.
Alors, non.
1, 2.
Ah bah,
c'est quoi la dernière ligne?
C'est pas pareil.
Alors, la dernière ligne, la quatrième, c'est 1, 2, 1, 1.
1, 2, 1.
Et à quoi cela va nous servir?
Pas grand chose, je pense.
1, 2, 3, non, c'est pas bon.
Non, c'est pas ça.
Étonnant, je m'étais basé sur le chiffre d'avant. Combien
je vous dis
999.
Non. Allez, je vous dis, c'est parti. La cinquième ligne, ce sera 1, 1, 1, 2, 2, 1. Et alors, le truc, c'était de regarder la ligne qui vient avant et de la réciter. Donc, par exemple, la ligne 1, c'était 1. Pour obtenir la ligne 2, je regarde la ligne 1 et je vois 1, 1. Donc je vais écrire 1-1. Pour la ligne 3, on a 1-1, je vois 2-1, j'écris 2-1. Donc la ligne, la ligne 4, pardon, c'était 1-2 et 2-1. Enfin, c'était 1-2 et 1-1, pardon. Oh, et donc la cinquième, voilà, vous voyez, 1-1, 1-2 et 2-1.
Ah, c'est trop pour nous, ça.
Oui.
Bon, ça y est, on a tué l'équipe. Allez, un tour de table de l'actu. On va commencer par... écoute, vas-y.
Un petit coup de gueule. Aujourd'hui, on va parler des militants écologistes. C'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs fois donc, qui, dans les musées, lancent de la peinture, voire même s'accrochent au tableau.
Même de la purée. Hein,
Voilà, il y a un petit peu de tout. Ils sont original sur ce point-là.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc ça, bon, il n'y a pas eu forcément d'œuvres abîmées puisque la plupart étaient protégées par des vitres, mais bon, ça a fait un bon scandale.
Ah, puis la preuve, on en parle aujourd'hui. Alan ?
Eh ben, on nous a récemment annoncé le retour des maths dans le tronc commun au lycée. Donc, c'est, les maths étaient partis pendant 3 ans. Donc, ça a tenu que 3 ans hein, avec la réforme Blanquer en 2019.
C'est sûr.
Y en a certains qui sont pas contents. Bon, écoutez, vous ferez des maths.
Je suis pas content.
Ça nous fera du bien parce que là, vu comment on a répondu aux énigmes, c'est mieux qu'on on termine par une autre actu. Il y a eu, ça fait 2 semaines désormais, 8 milliards de personnes sur la Terre. Ça fait beaucoup là quand même.
Mmh. C'est beaucoup.
On a un peu serré d'un coup.
Faut arrêter de faire des gosses. Hein.
Non.
C'est vrai que ça fait 8 milliards. Ça fait beaucoup sur un globe, surtout dans certains pays.
8 milliards, alors qu'en géographie, l'année dernière, on voyait 7 milliards 500.
On a revu les méthodes.
C'est exceptionnel.
Il me semble qu'il n'y a que 20 ou 30% de la Terre qui est habitée par l'homme.
C'est ça qui est dingue.
On a de la place en fait.
Il y a quelques
océans. Quelques océans.
On va pas vivre sur l'océan non plus.
Allez, après ce tour de table de l'actu, on va terminer. Comme chaque émission, par une citation. Clément, c'est à toi.
Une réplique cette fois-ci écrite par Jean-Michel Audiard pour le film Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause.
Où avez-vous appris à dire autant de conneries ?
2 ans de télé.
Voilà. La télévision, et voilà, écoutez, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus, ça veut tout dire. Merci l'équipe d'avoir passé cette demi-heure avec nous sur RCN. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne journée sur RCN.
Salut.